journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, 29 morts lors d'une tentative d'évasion dans une prison vénézuélienne, précision d'Olivier Poujade. Les inquiétudes du gouvernement irlandais depuis l'annonce de la démission de Theresa May et la forte probabilité d'un Brexit dur, correspondance de Dublin de Julien Lagache. L'Everest, victime d'une prédation économique de la part du gouvernement népalais, 10 himalayistes morts en une semaine, 120 personnes au sommet jeudi. Élément de contexte avec Thomas Larabi. Enfin, éthique et intelligence artificielle, c'est le thème de la bulle économique de ce samedi, signé Marie Viennot. Avant toute autre chose, cet extrait de la déclaration, il y a quelques minutes, du procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, au lendemain de l'explosion à Lyon, d'un colis piégé en pleine rue commerçante, 13 blessés légers, un suspect est toujours activement recherché, Rémi Heitz.
À l'instant où je vous parle, cet acte n'a donné lieu à aucune revendication. Un premier appel à témoins a été lancé hier soir avec un numéro d'appel, le 197, et les témoignages reçus sont en cours d'exploitation, sont au nombre de plusieurs dizaines, ces témoignages. De nouvelles photographies de l'individu vont être très prochainement diffusé.
Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte à Lyon afin d'y recevoir les victimes et leurs proches. Au Venezuela, avec l'inflation et les coupures de courant devenues fréquentes, la pénurie de médicaments est la grande préoccupation à laquelle il faut ajouter le prix et la rareté de l'essence. Le bras de fer entre le président autoproclamé Juan Guaido et le président chaviste Nicolas Maduro plonge les populations dans un abîme jusqu'à assombrir l'horizon. Bien avant cette crise aiguë, un mal endémique rongeait déjà la société vénézuélienne, les conditions de détention dans les prisons. Dernière manifestation sanglante de cette réalité, la mort de 29 prisonniers dans l'est du pays. Que s'est-il passé, Olivier Poujade ?
Deux jours avant l'assaut donné la nuit dernière par les forces spéciales de la police vénézuélienne, le chef du gang décimé avait fait circuler sur les réseaux sociaux cette vidéo. Armé d'un pistolet Glock et de deux grenades, le détenu se disait disposé à mourir, à tuer tous ceux qui tenteraient d'intervenir. Le visage masqué par un foulard, il tenait en joue deux visiteuses, deux femmes suppliant qu'un dialogue puisse être établi. Le carnage n'a pas été évité, 29 détenus abattus, 19 policiers blessés, visiblement le prix à payer pour contrer cette tentative d'évasion de masse, selon le responsable de la sécurité de l'État de Portuguesa au centre du pays, alors que les organisations de défense des droits des prisonniers évoquent, elles, un massacre délibéré face à des détenus qui réclamaient de la nourriture et leur transfert dans une prison. L'affrontement d'hier a eu lieu dans un calabozo, un centre de détention provisoire dans lequel les criminels ne doivent logiquement pas rester plus de 48 heures. Des lieux de plus en plus surchargés au Venezuela, où les gangs finissent par prendre le pouvoir, réussissent à faire rentrer des armes, des cachots où les droits ne sont pas respectés, où la violence et les drames se multiplient. 68 morts le mois dernier dans l'incendie d'un établissement de ce genre, 37 lors d'une mutinerie en août 2017. Le chaos économique dans lequel se trouve le Venezuela fait flamber les actes de criminalité et le pays n'a plus les moyens de faire face. 55 000 personnes sont aujourd'hui entassées dans ces centres de détention provisoire pour une capacité d'à peine 8 000 places.
L'errance de milliers d'immigrés latino-américains que les autorités débordées par l'afflux de réfugiés ayant franchi la frontière mexicaine ne peuvent plus maintenir en détention. Depuis une semaine, ils sont débarqués à un arrêt de bus dans la ville de San Bernardino, au sud-ouest des États-Unis, sans argent, sans nourriture et sans aide. Cette problématique de l'immigration clandestine nourrit régulièrement les argumentaires volontiers provocateurs de Donald Trump, qui flatte ainsi son électorat et vante les mérites d'une Amérique recroquevillée sur elle-même. Le président américain en est loin de ces considérations. Il est en visite d'État au Japon, avec l'intention d'enterrer l'âge de guerre commerciale, et Tokyo a bien l'intention de choyer son hôte en visite d'État. Yann Rousseau nous appelle de Tokyo.
Rien n'est trop beau pour Donald Trump. Le gouvernement japonais Shinzo Abe lui a concocté un programme plein de moments exceptionnels, comme les aime le président américain. Alors le premier ministre va bien sûr l'emmener ce week-end manger du steak et jouer au golf, mais il va surtout l'inviter à un grand tournoi de sumo. Et honneur suprême, Donald Trump va être lundi le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur Naruhito. Pour le pouvoir japonais, il est crucial que le président américain soit enchanté de sa visite. Tokyo veut à tout prix s'éviter un coup de sang de Washington. La Maison-Blanche se plaint régulièrement du gigantesque déficit commercial que les États-Unis enregistrent avec le Japon. Mais pour l'instant, elle n'a pas pris de mesures trop drastiques comme elle l'a fait avec la Chine. Et Tokyo espère maintenir ce statu quo. Trump semble d'ailleurs s'en accommoder pour le moment car il réalise que le Japon est désormais son allié le plus fidèle. Jamais une critique ou une moquerie et un accord presque parfait sur tous les grands dossiers géopolitiques. Sur la Chine, le Japon se méfie comme les États-Unis des ambitions de Pékin et de ses progrès militaires. Sur la Corée du Nord, le Japon est favorable, comme les durs de Washington, à un maintien des sanctions contre Pyongyang. Shinzo Abe a toujours expliqué à Donald Trump que Kim Jong-un n'abandonnerait jamais ses bombes atomiques malgré les sommets et les poignées de main. Et donc les deux leaders vont pouvoir afficher ensemble leur fermeté au moment où plusieurs puissances de la région, comme Pékin, Moscou ou même Séoul, contestent la stratégie américaine et plaident pour un assouplissement des sanctions.
En Grande-Bretagne, un nouveau prétendant au poste de Premier ministre au lendemain de l'annonce par Theresa May de sa démission le 7 juin prochain. L'actuel ministre de la Santé, Matt Hancock, se porte candidat à la présidence du Parti conservateur et donc au 10 Downing Street. Grand favori des bookmakers, Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien maire de Londres et surtout l'un des artisans de la victoire du Brexit au référendum de 2016. Boris Johnson, promoteur d'un Brexit dur, et c'est précisément ce qui inquiète l'Irlande. Dublin, Julien Lagache.
C'est une période de danger pour nous, affirme le Premier ministre irlandais. Leo Varadkar prévient que la bataille pour succéder à Theresa May peut se solder par l'avènement d'un Premier ministre eurosceptique radical, autrement dit quelqu'un susceptible de jeter l'accord de divorce à la poubelle. Cela anéantirait du même coup le dispositif prévu contre le retour d'une frontière en Irlande. Or, c'est précisément ce point qui ulcère les partisans d'un Brexit dur. Pour autant, pas question de rouvrir les négociations, même avec un nouveau locataire au 10 Downing Street, Martel Dublin, soutenu par Bruxelles. Néanmoins, si le futur chef du gouvernement britannique s'avère farouchement pro-Brexit, il pourrait abandonner purement et simplement les négociations et ne pas demander à l'UE un nouveau report du divorce au-delà du 31 octobre, synonyme de Brexit dur, une hypothèse que l'Irlande juge aujourd'hui plus probable que jamais.
Les élections européennes, nous sommes plus de 400 millions à être appelés aux urnes. L'objectif est élire 751 eurodéputés qui siégeront ces 5 prochaines années au Parlement de Strasbourg. À quoi vont-ils servir? Quel est leur pouvoir? Qui se cache derrière cette Europe, souvent pointée du doigt par les responsables politiques nationaux? Élément de réponse avec vous, Louise Baudet.
Idée largement répandue, les eurodéputés traiteraient de sujets mineurs comme la taille des cages à poules ou la courbure réglementaire des bananes. Pourtant, le financement de la PAC ou des fonds structurels européens soit des dizaines de milliards d'euros chaque année. C'est eux qui en décident. Certes, ils ne sont pas seuls. Ils partagent le pouvoir législatif avec les ministres des États membres, réunis par compétences, économie, intérieur, agriculture, au sein du Conseil de l'Union européenne. Par ailleurs, c'est la Commission de Bruxelles qui a l'initiative des textes examinés au Parlement sous l'impulsion politique des chefs d'État et de gouvernement, les 28 du Conseil européen. Si on se résume, les États impulsent, la Commission prépare, le Parlement et les gouvernements nationaux valident. Beaucoup de confrontations, beaucoup de négociations aussi, et une fabrique de la loi basée sur le compromis. Maître mot à Bruxelles et à Strasbourg, car au Parlement, la discipline de vote n'existe pas. On est de droite, de gauche, écolo ou souverainiste. On est aussi français, allemand, suédois ou lituanien. Fidélités multiples qui font qu'aucune majorité n'est acquise à l'avance. Tout le contraire de ce qui se passe à l'Assemblée nationale à Paris.
Il est 12h38, vous écoutez le journal de France Culture. 10 morts en une semaine sur le site de l'Everest. Un Britannique est décédé ce matin à la redescente et un Irlandais est mort dans sa tente au col Nord, vers 7000 mètres d'altitude hier. Avant-hier, trois Himalayistes indiens et un guide népalais perdaient la vie sur la voie classique. Un sommet foulé par 120 grimpeurs pour la seule journée de jeudi. Il y a là, et c'est terrible, des embouteillages sur la voie normale en pleine fenêtre météo. Bonjour Thomas Larabi.
Bonjour Mathieu.
Thomas, ce n'est pas nouveau, mais là, ça prend de véritables proportions.
Oui, les photos d'alpinistes à la file indienne sur la cime la plus haute du monde sont impressionnantes. C'est simple, on se croirait presque dans une station de ski. Cette année, 600 personnes ont déjà grimpé l'Everest par la voie népalaise. Alors ce chiffre ne donne pas le vertige, mais le problème, c'est que la saison est très courte pour escalader ce haut sommet qui n'est tout simplement pas fait pour vivre. Le moment le plus propice, il se situe de la fin avril à la fin mai, et c'est cela qui crée ces embouteillages, selon l'alpiniste et écrivain Jean-Michel Asselin.
À partir du moment où il y a un bon créneau météo, ils partent en même temps. Et le problème, c'est que quand vous vous trouvez sur une arête qui fait 2 mètres de large, eh ben, vous ne pouvez pas être très très nombreux de front. Vous êtes obligés d'être tous en file indienne. Et là, c'est une grosse foire d'empoigne dans un endroit qui est très dangereux puisqu'on est quand même au-dessus de 8000 mètres. Il peut y avoir du vent, il fait très froid, les gens sont fatigués, les gens ont le mal des montagnes. Et arrive ce qui arrive, c'est-à-dire que quelqu'un qui va rester 3 heures à attendre dans cet endroit-là, qui peut-être n'aura pas assez d'oxygène supplémentaire, et ben, il va tout simplement développer un œdème et mourir.
Des bouchons, il n'y en avait pas il y a 30 ans, quand Jean-Marc Battard a grimpé l'Everest en solitaire et sans oxygène. Pour lui, le business a aujourd'hui pris clairement le pas sur la sécurité. Mais pas question pour lui de jeter la pierre aux grimpeurs.
Je trouve pas que c'est forcément eux les responsables. Ils ont en face d'eux des agences qui prennent leur fric, qui leur font croire qu'ils vont y arriver. Donc il y en a qui ont eu aucune chance, il y en a qui ont moyennement de chance, et puis il y en a qui y arrivent quand même et qui malheureusement meurent d'épuisement. Le ministère du Tourisme est un petit peu en partie en cause. Il y a beaucoup malheureusement de gens qui sont assez soudoyés par des agences qui ramassent beaucoup d'argent. 2-3 grosses agences sur Katmandou qui en fait dirigent un peu les manettes même au niveau du ministère du Tourisme, oui.
Depuis le début de l'année, c'est 340 permis de grimper qui ont déjà été délivrés par les autorités népalaises. Et ce sésame a un prix, 11 000 euros.
Merci à vous Thomas Larabie.
La bulle économique, Marie Viénot.
42 pays se sont engagés sur des principes pour éviter les dérives liées au développement de l'intelligence artificielle. Mais éthique et intelligence artificielle ne font pas encore bon ménage.
Cette musique n'a pas été suggérée par un algorithme, elle a été composée par un algorithme à qui on avait fourni comme base de données toutes les chansons des Beatles. Cette expérimentation, vous en conviendrez, ne permet pas vraiment de conclure à la supériorité de la machine sur le cerveau humain pour la composition musicale. Mais elle prouve qu'il n'y a aucune limite au développement des intelligences artificielles, pas même pour la créativité. Voilà pourquoi aucun métier ne sera épargné. Col bleu, col blanc, commerce, service, les pertes d'emplois seront immenses, on le sait. Les estimations vont de 4 emplois sur 10 pris par des machines d'ici 15 ans à 30% d'ici 2030, jusqu'à 99% à terme pour les plus pessimistes, en passant par zéro pour ceux qui croient que l'intelligence artificielle, IA pour les intimes, créera plus d'emplois qu'elle n'en détruira. Parmi ces nouveaux métiers, on peut déjà citer expert en éthique des systèmes d'intelligence artificielle. À l'éthique, c'est important. Google, Microsoft, Facebook, IBM, Amazon, toutes les entreprises qui développent ces systèmes et ont une image de marque à défendre ont des comités éthiques sur l'IA, des chartes éthiques sur l'IA, participent à des partenariats éthiques sur l'IA. Les pays aussi s'engagent. L'Union européenne a publié récemment une liste de lignes directrices pour, je cite, « des intelligences artificielles dignes de confiance ». Et cette semaine, 42 pays dont la France, les États-Unis et les autres pays de l'OCDE, se sont engagés à respecter des principes que vous trouverez résumés sur la page internet de la bulle économique. Ces principes sont louables, mais aucun d'eux n'est contraignant. Encadré, réglementé, au nom de dangers potentiels, cela briderait l'innovation, a expliqué cette semaine à l'OCDE Michael Kratsios, le conseiller en technologie de Donald Trump. Et ce serait de surcroît, dit-il, dans l'extrait qui suit, laisser le champ libre aux États moins regardants sur l'éthique.
A rush to impose onerous and duplicative regulations will only cede our competitive edge to authoritarian governments who do not share our same values.
Sur l'intelligence artificielle, comme sur tant d'autres sujets d'envergure internationale, la régulation est vue comme un frein à la compétitivité, un boulet. Or, tous les États veulent faciliter l'essor de champions nationaux. Alors pour le moment, c'est le marché qui choisit les projets de recherche qui méritent d'être financés. Or, le marché, quand il pense intelligence artificielle, ne pense pas éthique, mais rué vers l'or. Il y a 8 ans, les start-up spécialisées dans l'intelligence artificielle avaient recueilli 3% des fonds de capital investissement mondiaux, l'an dernier 11%. Que finance-t-on ? La recherche sur la voiture autonome, pour un tiers, mais aussi, beaucoup, les systèmes de reconnaissance faciale. Au début du mois, le leader mondial chinois de cette technologie n'a eu aucun mal à trouver 750 millions de dollars de capitaux, y compris américains, en dépit des critiques sur son usage non éthique en Chine. Cette semaine, l'Assemblée générale d'Amazon a refusé d'interdire la vente de services de reconnaissance faciale à la police américaine, alors que des actionnaires s'étaient pourtant inquiétés des erreurs et des menaces pour la vie privée. l'an dernier, Google a publié son code éthique au moment même où il adaptait son moteur de recherche aux besoins de censure de l'État chinois. Sur l'intelligence artificielle et l'éthique, les doubles discours sont donc légion. On appelle cela même l'éthique washing. Pour le moment, les meilleurs remparts sont la presse et les salariés de ces entreprises qui, dans le cas de Google, ont réussi à faire abandonner le contrat avec les Chinois. Pas les États qui jouent eux aussi quelque part double jeu, car s'ils énoncent dans leurs principes la supériorité des intérêts humains sur le progrès technique, ils sont aussi très intéressés par tout ce que l'intelligence artificielle leur permettra de contrôler, de prédire et de surveiller.
Merci à vous, Marie Viennot. La météo de l'après-midi, de la pluie attendue particulièrement sur le sud-ouest, mais aussi dans la vallée du Rhône, la Champagne, le Nord et aussi Paris. Ailleurs, soleil voilé sur la côte atlantique et au bord de la Méditerranée. Cette édition a été préparée avec Benjamin Ducy à la technique, Yanis Judad.